France Inter.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, il y a très longtemps en Grèce, il n'y a pas que les dieux et les déesses qui rôdaient partout sur la terre, les humains aussi. Les Grecs n'arrêtaient pas de voyager, même très loin, de franchir des mers, des fleuves, des montagnes, d'aller voir d'autres peuples, d'apprendre à les connaître, de fonder des villes dans des zones extrêmes. L'espace du monde leur était ouvert totalement, que le monde soit brûlant dans les déserts ou couvert de neige et de glace. Ils allaient voir, s'informer, y vivre, apprendre les langues, apprendre des techniques inconnues, des dieux inconnus, ou tout simplement trouver refuge à l'étranger. Quand chez soi, ça allait mal. On bougeait tout le temps.
Quand les dieux rôdaient sur la terre. Pierre Judet de Lacombe sur France Inter.
Dans leur mythe, les Grecs ont beaucoup fait voyager leurs héros. Ulysse est allé partout, même dans les enfers. Jason a connu 1000 aventures pour conquérir sa toison d'or à l'est, très loin de sa terre natale. Héraclès le musclé est allé jusqu'à l'extrême ouest, jusqu'au couchant et son jardin lumineux des pommes d'or. Aller très loin, c'était possible si on avait les dieux avec soi. Mais tout le problème, la grande difficulté, c'était de revenir. Dans toutes les histoires de héros ou d'héroïnes qui voyagent, qui s'exilent, le retour chez soi est l'épreuve la plus dure, la plus spectaculaire. Souvent, si vous voyagez longtemps, on ne vous attend plus. Et le chez-soi que vous vouliez rejoindre à tout prix n'est plus vraiment un chez-vous. D'autres ont pris la place. Ulysse, avant de retrouver dans le calme son palais, sa femme, son fils et son père, a dû massacrer une bonne partie de la population de son île, qui ne voulait plus entendre parler de lui. Et Ulysse est mort chez lui, tué par un fils qu'il avait eu longtemps avant de la très lointaine Circé, la fille du soleil. Pour son malheur, Ulysse n'a pas su reconnaître ce fils à temps. Héraclès a énormément souffert chez lui après les 12 travaux épuisants qui l'ont fait errer par le monde. Jason n'est jamais vraiment rentré chez soi. Même de retour en Grèce, il est resté un exilé, un décalé permanent. Et il est mort, assommé par une vieille poutre de son bateau qui avait pourri. Mais est-ce qu'on est le même ou la même après ces immenses voyages? Après de longs séjours loin de chez soi, quelque chose a dû changer dans la tête, dans son corps, dans la perception du monde, dans l'idée qu'on se fait du pays natal. On est différent, autre, et on est vu comme un étranger. Comment se passe le choc du retour? Pour le pays qui a été quitté et pour celui ou celle qui revient. Les Grecs n'ont pas cessé de se poser la question. Les grands voyageurs, les grands errants dont ils ont raconté les histoires ont tous envie de rentrer à la maison. Mais c'est quoi la maison? Comment peut-elle accueillir celui ou celle qui est parti et qui revient de loin? C'est quoi le pays natal que l'on n'arrête pas de quitter avec ensuite l'envie si forte d'y revenir? De quoi est-il fait? Qu'est-ce qui pousse à en partir, puis à vouloir y revenir en étant devenu différent? Une histoire étonnante montre à quel point la question était vive pour les Grecs. C'est l'histoire des Danaïdes, ces 50 filles du vieux Danaos. C'est une histoire longue. Elle commence par l'exil forcé d'une princesse grecque, Io, la fille du roi de la ville d'Argos. Cette Io est contrainte par Zeus de quitter sa maison, son pays, et va faire seule un très long voyage pénible par le bord oriental de la terre. Elle va arriver en Égypte. Elle aura en Égypte un enfant de Zeus. Et après 5 générations viendront des filles, 50, les Danaïdes, et 50 garçons, leurs cousins germains. Les Danaïdes, dont nous raconterons aujourd'hui l'histoire, pour le moins mouvementée, vivent d'abord heureuses avec leur père Danaos, en Égypte, sur les bords du Nil. Une vie royale de princesse. Mais la vie devient soudainement impossible à cause de leurs cousins germains, les Égyptiades, fils d'Égyptos. Ce sont leurs cousins. Ils poursuivent, ils harcèlent les filles, veulent les forcer à les épouser. Les Danaïdes refusent. Elles devront s'enfuir, partir pour la Grèce. Les garçons vont les rejoindre en Grèce. Ce sera violent. L'un d'entre eux, le plus doux, le plus aimable, aura un enfant de l'une d'entre elles. De cet enfant sera issu, quelques générations après, un autre fils de Zeus, le grand héros, le héros le plus grec qu'on puisse imaginer, un modèle absolu, le très grand, très fort, le prodigieux Héraclès. La boucle sera bouclée. Ce héros plus que grec, Héraclès, aura donc pour ancêtre un couple égyptien à la peau sombre, venu du delta du Nil. Être vraiment grec, ce n'est pas simple. Il faut ce très long détour. Il faut revenir de très loin, en ayant plein de pays, plein d'aventures et d'histoires lointaines, dans la tête, dans le corps. Pour comprendre les aventures des 50 Danaïdes, il faut revenir au point de départ de toute l'histoire. Pourquoi ces filles d'origine grecque sont-elles égyptiennes? Pourquoi leur ancêtre, la princesse Io, a-t-elle dû quitter la Grèce et prendre la route de ce très long exil? L'exil en Égypte de la princesse Io, c'était la volonté des dieux. Et ils s'y sont mis à deux, Zeus, le chef de tous les dieux, le patron, le maître de l'Olympe, mais aussi le dieu volage, toujours prêt à une nouvelle histoire amoureuse, enfin, histoire d'amour de son point de vue. Et son épouse Héra, la souveraine, l'inamovible, toujours fidèle, malgré les infidélités incessantes de son mari. Ce couple de divinités souveraines, couple infernal, a fait ensemble l'histoire de la pauvre princesse Io. Ça commence très banalement. La jeune et belle Io vivait dans la ville d'Argos, en Grèce. Elle était la fille du roi de la ville, Inakos, et elle servait comme prêtresse dans le temple de Héra, l'épouse de Zeus, la déesse des mariages et la patronne divine de cette ville qui lui était particulièrement dévouée. Zeus, évidemment, remarque la jeune fille. Comme d'habitude, il est pris d'amour. Et il fait tout pour l'arracher à son père Inakos et à sa dévotion envers Héra, son épouse légitime. Pour arriver à ses fins, Zeus envoie chaque nuit à la jeune fille des rêves très troublants. Elle ne sait pas quoi penser. Dans sa pièce de théâtre « Prométhée enchaîné », le poète Eschyle, du 5e siècle avant notre ère, fait parler Io. Elle raconte l'affreuse emprise nocturne du dieu.
« Sans cesse, la nuit, des visions venaient se poser, chez moi, dans ma chambre de jeune fille. Elle cherchait à me toucher avec des mots tranquilles. Enfant favorisé des dieux, pourquoi rester si longtemps fille, alors qu'il t'est permis de faire le mariage le plus beau ? Tu as su blesser Zeus, le désir le brûle. Il veut que vous vous donniez ensemble à l'amour. Mon enfant, ne repousse pas le lit de Zeus. Va trouver la profonde prairie de Lerne, les vachers et les étables d'Inakos, ton père, afin que l'œil de Zeus se libère de son désir. Voilà les rêves qui toutes les nuits, hélas, me torturaient. »
Honteuse, paniquée, Io finit par tout dire à son père, le roi Inakos. Inakos panique à son tour. Les dieux veulent dire quelque chose, mais quoi ? Il envoie une foule d'émissaires consulter tous les grands oracles de la Grèce. Aucune réponse n'est claire, on ne comprend rien. Jusqu'au jour où depuis Delphes, depuis le sanctuaire prophétique d'Apollon, le fils de Zeus, le dieu de la parole absolument vraie, arrive une réponse plus que claire, directe. En fait, cette réponse est une menace, très explicite.
Enfin parvint à Inakos une phrase pleine d'évidence, dont la clarté s'est abattue sur lui. Elle lui enjoignait de me chasser hors de la maison, hors du pays, pour que, rejeté, j'aille errer jusqu'aux bornes extrêmes de la terre. S'il refusait, Zeus enverrait la foudre de feu et elle anéantirait toute sa race. Venant d'Apollon Loxias, de telles prophéties l'ont convaincu. Il m'a chassé, exclu de sa maison. Malgré lui, malgré moi, Zeus l'avait bridé, l'obligeant à se faire cette violence.
Io quitte la maison familiale. Elle marche, contrainte, vers la prairie où Zeus l'attend, la prairie de Lerne, là où vont brouter les troupeaux de son père. Héra, l'épouse de Zeus, sent bien que quelque chose de pas correct doit se passer entre Zeus et la jeune fille. Pour empêcher cela, elle transforme la pauvre Io en vache, en jeune génisse aux cornes d'or. Zeus, pense-t-elle, sera bien attrapé. Il ne pourra pas s'unir à la femme qu'il convoite. À partir de là, il y a deux versions, toutes les deux racontées par le même poète, Eschyle, dans deux tragédies différentes. Ça ne le gênait pas une seconde. Selon une version la plus brutale, Zeus ne se laisse pas arrêter pour si peu. Il déjoue la ruse.
En donnant à son corps l'air d'un taureau monteur de vaches.
C'est dans ses cordes. Transformé en taureau, Zeus parvient ainsi à ses fins avec la jeune Génisse. Selon l'autre version, plus soft, Zeus ne fait rien et se contente d'attendre que Io arrive en Égypte. Pour torturer sa rivale, Héra lance contre la pauvre Io un insecte, un taon, qui ne cesse de piquer la vache que Io est devenue. La torture est infernale. Elle oblige Io à toujours courir, à ne se donner aucun repos.
Dans l'aiguillon de la mouche, c'est le fouet des dieux qui me frappe et me pousse d'un pays à l'autre.
Michel Cazenave, philosophe.
Lorsqu'on parle de Io, il y a certainement quelque chose qu'il faut ajouter, c'est que dans l'iconographie tout à fait classique de la Grèce ancienne, on représente souvent Io, bien entendu, sous la forme de génisse, ou alors sous une forme composite, mais extrêmement symbolique par elle-même, à savoir comme une femme avec deux petites cornes sur le front. Et depuis Freud, nous savons bien que ces deux cornes sont l'emblème de la sagesse, en quelque sorte, le retour vers une animalité, mais une animalité mystique, précisément quelque chose de l'ordre du totémisme, qui renvoie la personne vers les puissances célestes. Et de ce point de vue-là, peut-être y a-t-il, à travers Io, à travers ses malheurs, à travers tous les malheurs de ses descendantes, à travers ce thème de l'errance, le fait que, au bout de l'errance, c'est précisément la sagesse et d'une certaine manière peut-être la manière dont les Grecs se concevaient eux-mêmes.
France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre. Pierre Judet de Lacombe.
Pour sentir l'odeur du pain, au sésame ou au cumin, fallait faire la queue longtemps dans ce pays. Toute la ville n'est que banlieue, on se débrouille comme on peut. Il pousse entre les pavés des fleurs meurtries. Et pourquoi le mot maison là-bas rime avec prison? Et les voisins, on s'en les gardiens. Ici je lis mon journal où je veux, et c'est banal. Ici je n'ai plus peur au petit matin. Il n'y avait rien à regretter là-bas, alors je suis partie loin de chez moi. Ici je suis bien, je suis chez moi, chez toi. Pourtant j'ai des souvenirs qui restent en moi. Et devant les bras zéros dans l'avenue, l'aveugle au violon très fort dans les rues que des vélos, j'entendrai toujours ces bruits qui continuent. Des travaux jamais finis pour des enfants qui en rient, tous ces visages sans un nom dessus. Pour les voisins d'à côté, je ne suis pas une immigrée, car ils font comme s'ils m'avaient toujours connue. Il n'y avait rien à regretter là-bas, alors je suis partie loin de chez moi. Ici je suis bien, je suis chez moi, chez toi. Pourtant j'ai des souvenirs qui restent en moi.
Pierre Judet de Lacombe nous parle des Danaïdes, 50 filles qui refusent un mariage forcé.
Io va parcourir tout le côté oriental du monde connu, Ce voyage est fabuleux. Il passe par des étapes, des populations incroyables jusqu'à l'Égypte. Il vaut la peine de le suivre. On découvre les limites orientales du monde, des zones extrêmes, rudes et inhospitalières. Ça commence cool. Io va d'abord vers le nord. Elle traverse le nord de la Grèce et arrive au grand sanctuaire de Zeus, à Dodone. Ce lieu très étrange, où les oracles de Zeus se font entendre aux humains par le bruissement des feuilles de grand chêne, quand le vent les fait parler. Le dieu parle par des arbres. Quand Io passe par là, piqué par l'insecte de Héra, les feuilles de ses chênes lui accordent un titre glorieux.
La grande épouse de Zeus, sa nouvelle promise.
Puis, vrillé par l'aiguillon de l'insecte, Io fait un bond et court le long de la longue mer qui sépare la Grèce de l'Italie. Cette mer prendra le nom d'Io. Elle deviendra jusqu'à aujourd'hui la mer Ionienne. Io trace encore vers le nord. Elle arrive dans une zone montagneuse, déserte, sans personne, vers les Carpates. Là, elle tombe sur un dieu enchaîné à une paroi rocheuse. Un dieu qui souffre, qui est mis à la torture par Zeus, comme elle, Io, est torturée à cause de Zeus et de Héra. Ce dieu est Prométhée, le dieu qui aime les humains. Zeus l'a fait clouer là, dans la roche, parce que Prométhée a volé le feu, qui était divin, et l'a transmis aux humains pour qu'ils puissent survivre. Zeus le punit pour ce crime. Ce Prométhée est un dieu devin. Il sait tout, prévoit tout. Quand il voit arriver la pauvre Io exténuée, mordue par le temps, il la reconnaît tout de suite et la plaint. Il propose de lui raconter le long voyage qu'elle doit entreprendre, de lui dire tous les dangers qui la guettent, tout ce qu'elle doit éviter. Prométhée est très intéressé par l'histoire d'Io, par ses errances. Cette histoire le concerne personnellement, car lui, le dieu qui sait tout à l'avance, sait qu'une fois arrivé en Égypte, Io sera à l'origine du héros qui va le délivrer de son rocher. Ce héros sera Héraclès, un fils à venir de Zeus. Héraclès sera un lointain descendant de Io. Prométhée devra attendre plusieurs générations avant qu'Héraclès ne le trouve et ne le libère. Il faut donc à tout prix que Io arrive saine et sauve en Égypte, là où elle doit accoucher de l'enfant que Zeus lui a fait. Prométhée dit à Io de changer de direction, de ne plus aller vers le nord, mais vers l'est, vers les levées du soleil. Il faudra faire très attention. Elle rencontrera le peuple Scythe, qui s'écrit S-Y-T-H-E, des nomades, qui ont donné beaucoup de mal à tous ceux qui les ont attaqués. Ils sont violents et insaisissables, toujours en mouvement. C'est une population hors sol qui vit sur des chevaux et des chariots.
Partant d'ici, change de route. Dirige-toi d'abord vers les levées du soleil et marche jusqu'à des arpents non labourés. Tu parviendras chez les Scythes, peuple vagabond qui habite sans toucher terre des maisons tressées, portées par des chars aux fortes roues. Ils sont équipés d'arcs qui tirent loin. Ne t'en approche pas. Passe au-delà de ce pays en rasant du pied les rochers éplorés de la mer.
Puis, dit Prométhée, Io rencontrera une autre population farouche, les Calibes, des durs qui travaillent le fer. Personne ne peut les approcher. Elle verra une haute montagne et un fleuve dément, bouillonnant, qu'on appelle le fleuve des excès, Hubristès. Il ne faudra pas le franchir tellement il est dangereux. Io devra remonter jusqu'à sa source, dans une haute montagne, le Caucase. Là, elle pourra passer.
Tu atteindras le fleuve des excès, dont le nom ne ment pas. Ne le traverse pas. Le passage à pied est difficile. Attends d'avoir en face de toi le Caucase, le plus haut de tous les sommets, là où ce fleuve crache sa force en jaillissant des tempes du roc. Il faudra franchir les cimes voisines des étoiles et prendre le chemin du midi.
Heureusement pour elle, Io tombera ensuite sur une autre population farouche et guerrière. Mais cette population sera bienveillante et l'aidera. Ce sont les Amazones. Les fameuses combattantes.
Troupe qui a horreur des hommes.
Les Amazones aideront Io, la guideront. Io va alors trouver la mer, un détroit entre l'Europe et l'Asie. Io devra avoir le courage de franchir cette passe. Elle réussira. Et le détroit prendra pour toujours le nom de Bosphore, le passage de la vache. Non pas le Bosphore de Turquie à Istanbul, plus au sud, et le Bosphore qu'on appelle Cimmérien, entre la mer Noire et la mer d'Azov. C'est l'actuel détroit entre la Crimée et la Russie, là où Poutine a fait construire son grand pont qui signale son annexion de la Crimée. Io sera en Asie. Elle ira encore vers l'Est, vers l'Orient, et traversera des contrées plus qu'étranges. Elle passera à côté de trois divinités improbables, les trois vieilles femmes qui n'ont qu'un seul œil pour toutes les trois. À côté d'elles, il y a les trois gorgones, qui sont au contraire bardés d'yeux terribles et qu'il ne faut surtout pas regarder en face. Leur regard transforme les gens en pierre.
Auprès des trois vieilles sont trois sœurs ailées, les gorgones, aux crins de serpent, effroi des hommes. Nul mortel, s'il les a regardées, ne respire plus. Voilà ce que j'ai à te dire sur ces guetteuses.
Puis, elle verra des chiens hargneux, à la gueule acérée, les griffons. Puis des êtres à pieds de chevaux, et qui n'ont qu'un œil. Et enfin, elle arrivera aux limites de la terre, le long du fleuve Éthiops, là où il y a les sources du soleil. Ce sera déjà un lieu pour respirer. Le lieu d'un peuple bienheureux, les Éthiopiens, à Éthiopès, les hommes au visage de feu, au visage incendié. Ce sont les humains les plus proches du soleil qui se lèvent tout près de chez eux. Ils sont bienheureux, car les dieux de l'Olympe continuent régulièrement à venir chez eux faire la fête, ce qu'ils ne font plus ailleurs. Là, Io devra encore une fois changer de route et aller vers le nord. Elle descendra le cours du Nil. Elle atteindra enfin le pays fabuleux, riche, calme, qu'est l'Égypte. Pour les Grecs, l'Égypte est un pays béni, très ancien. Cette terre a su échapper aux catastrophes qui régulièrement ravagent les civilisations, quand arrive un déluge, un incendie ou une grande guerre. L'Égypte échappe à ces désastres cycliques, elle est stable, un pays de sagesse, car chez elle, la nature sait mettre les forces contraires en bon équilibre. Ce qui est frappant en Égypte, ce sont les crues du Nil. Elles ont lieu en été, pendant la saison sèche. Grâce au Nil, la sécheresse de l'été due au soleil est compensée par l'afflux des eaux fécondes du fleuve. Un monde parfait. Là, en Égypte, dans le delta du Nil, Io sera enfin délivrée de sa forme de vache, délivrée des piqûres du temps qui la harcèlent depuis la Grèce. Avant d'arriver dans ce pays de cocaïne, l'Égypte, Io est donc passée par toutes les formes possibles de société, grecque et non grecque, liée à la terre ou nomade. Des hommes qui vivent à cheval et des hommes à pied de chevaux. Des femmes qui vivent sans hommes. Elle a même vu des sociétés monstrueuses qu'il faut fuir, avec un seul œil pour trois personnes ou avec les yeux hyperactifs des trois gorgones qui vous fichent sur place et vous transforment en pierre. Io, la femme transformée en vache, aura connu tout un manège tourbillonnant de formes humaines et divines hallucinantes. Elle aura tout vu. En Égypte, dans le delta du Nil, arrive enfin le calme. Zeus rend à la jeune Io sa forme humaine par un simple effleurement de sa main. Cette caresse de Zeus fait naître un enfant, un mâle. À cet enfant de Io et de Zeus est donné le nom de « fils de la caresse » en grec, « épaphos ».« Toucher » se dit en grec, « ephaptein ». Cet épaphos a la peau sombre, comme tous les Égyptiens. Il est bien du pays et il est destiné à régner sur l'Égypte, pays miraculeux, prospère, grâce aux eaux fécondes du Nil, pays béni des dieux. 5 générations sont issues de ce roi égyptien d'origine divine et grecque, épaphos. La 5e génération sera une moisson de filles, les 50 Danaïdes et les 50 garçons, leurs cousins germains, les Égyptiades. Ces garçons, pleins d'un désir qu'ils croient légitime et contraignant, deviennent un danger pour les 50 filles. Ils veulent obliger leurs cousines à les épouser. Elles refusent de toute leur force. Les Danaïdes n'ont qu'une solution, fuir l'Égypte avec leur père Danaos. Elles vont quitter la plaine humide et riche du delta du Nil pour rejoindre la ville natale de leur ancêtre Io, la ville d'Argos, une ville grecque en pleine terre, ville connue pour sa sécheresse, son manque d'eau, un autre monde. Cette aventure nous est connue par une autre tragédie du poète athénien Eschyle, les Suppliantes.
Maurice Sartre, historien.
Être suppliant, ça a un sens très précis en droit grec. C'est-à-dire, c'est se placer sous la protection d'un dieu, et le suppliant qui se réfugie dans le sanctuaire d'un dieu, normalement, est totalement intouchable. On est obligé de le protéger, quoi qu'il arrive. Alors, ces femmes, elles se placent sous la protection des dieux. C'est pour le migrant, puisqu'elles sont des migrants, une protection particulière et sacrée. Ces femmes expliquent pourquoi elles sont parties, et elles expliquent en particulier, enfin la coryphée qui tient ce discours dit « Nous n'avons pas fui à la suite d'une condamnation ». Et parce que pour elles, évidemment, le migrant qui fuit, la plupart du temps, souvent en tout cas, c'est un condamné. Elle, la raison qui les pousse à fuir est tout autre. Je dirais que pour l'Antiquité, même si tous les mariages sont évidemment imposés par les pères, on n'a pas beaucoup d'exemples en dehors de celui-ci de femmes qui fuient en groupe comme ça. On est là dans le théâtre.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, Pierre Judet de Lacombe.
Honesty between a seller and a buyer should be a given, but man, I didn't know you were a liar. Dropped out of college, still I made it through the wire. We was trying to hustle whatever was 10 just for a fiver. Don't sell yourself short, miss, said the driver. Was on my way to getting caught in a crossfire. I mean, lavish living, dripping designer. Who you wearing? They're so enchanted by attire. Hearts on fire, bought the dream with every penny that I acquired. This is set up and you'll be next up to those prior. Devil works hard, but the business works harder. I vowed from now to work smarter. They won't do it like us, for the people by us. Why they wanna fight our spirit on higher. God made truth of everything I desire. I don't need much as long as I got my baby, he a rider. He's sitting beside her, that's who she confiding. They want you conniving, creeping with your side ting. Making up a story that equals somebody buying. New world order, cause life as we know is dying. Not thriving, it's only a matter of timing. Ain't it just funny how you can literally give your everything. Somebody gonna turn around and tell you you ain't gave enough. Danger, what you afraid of? Acknowledging it's impossible now to restrain her. Worst thing I could have done is put trust in a stranger. But that needed to happen for me only to wake up. The shoots will get in your ear when your shit popping. Lies overflowing and they ain't stopping. You don't even recognize who it is that you're becoming. They don't give a shit long as the gravy train running.
My life is a blessing.
Start off so pure, do it for the love, nothing more. Nah, maybe to cop mama house, but nothing more. Maybe to sort my cousin out, but nothing more. Maybe I'll get a new coupe, nothing more. 15 to 100 shoes, nothing more. By the time you know it, that list never stop growing, and you don't know what you even do this for. Hearts on fire, hearts on grandeur. Ballroom gowns and champagne pours. Is the after party, the social party, with everybody talking, the music should have been paused. Marble floors and tall glass doors is what you're in for. Did you read the clause? It was never about looking for results now. Every time you do something, you need an applause. Please keep your head on when you're going through the maze, cause navigating the fame is something you're never trained for. Tell me what you came for, wanted better days, and now you're running away from that very thing you prayed for. Tell me, am I tripping or is the light blinding? Am I anxious or am I excited? Am I calm or am I unbothered? Or maybe I needed my fire to be ignited. Hearts on.
Pierre Judet de Lacombe nous parle des Danaïdes, égyptiennes d'origine grecque, forcés de s'exiler en Grèce.
Les Danaïdes traversent la mer, débarquent en Grèce et avancent dans la plaine poussiéreuse et sèche. Elles arrivent à Argos, la ville d'où est parti Io. Elles sont en vue de la ville, elles sont perdues. Elles se regroupent près d'un petit monticule où il y a des statues de dieux. Elles ne savent pas de quel dieu il s'agit, mais ces statues ressemblent bien à des divinités. L'endroit, se disent-elles, est sacré. Elles pourront s'y poster en prenant l'attitude de suppliantes, de femmes désemparées qui se mettent sous la protection des dieux. Mais arrive peut-être un danger. Au loin, venant de la ville, un nuage de poussière monte vers elles. Des gens sont sortis de la ville et viennent à leur rencontre. Des gentils, des méchants, elles ne le savent pas encore. Leur vieux père Danaos leur fait un discours paternaliste qui se veut raisonnable.
Mes enfants, l'heure est à la raison. Et vous venez ici avec un homme de raison. Moi, le vieillard, capitaine exact, votre père. Maintenant, prévoyant l'événement sur terre, je vous conseille de veiller sur mes paroles, en les enregistrant. Je vois une poussière, messagère muette d'une armée. Des flûtes lancées par les moyeux des chars crient sans cesse. Il vaut mieux à tout point de vue, mes filles, vous attacher à ce roc, dédié aux dieux de la cité. Un autel est plus fort qu'une tour. C'est un bouclier inentamable. Allons, dépêchez-vous. Et tenant à la main avec respect les branches couronnées de blancheur des suppliants, joie du Zeus, maître de pitié, répondez à nos hôtes par des paroles de pitié, de pleurs et de misère, comme il convient à qui n'est pas d'ici, en disant clairement notre fuite, non entachée de sang.
Le vieux père fait la leçon à ses filles. Elles doivent être modestes, humbles, comme toute personne étrangère qui vient demander asile.
Qu'à votre voix d'abord ne s'attache aucune arrogance, puis que vos fronts sagaces lancent des mots qui portent, avec sur nos visages un œil tranquille. Et ne soyez pas verbeuses, et ne tirez pas en longueur quand vous parlerez. Le peuple d'ici est très susceptible. Souvenez-vous de céder. Vous êtes des étrangers réfugiés dans le besoin. L'arrogance de la langue ne convient pas aux faibles.
Les filles se rapprochent des statues. Elles y attachent les bandelettes de laine blanche qui signalent leur situation de suppliante. Elles ne connaissent pas ces dieux, mais elles se disent qu'ils peuvent être favorables. Danaos, leur père, leur rappelle que leur cause est absolument juste, aussi bien ici en Grèce qu'en Égypte. Leur désir de liberté, d'échapper à la violence de leurs cousins, a une valeur universelle partout.
De tous ces dieux, révérez l'autel partagé. Restez posé dans ce lieu pur, tel un essaim de colombes, effrayé par des éperviers de même plumage, ennemis de même sang, race souilleuse. Comment l'oiseau se garderait-il pur s'il mange de l'oiseau? Et comment, s'il prend pour femme une qui ne veut pas, à qui ne veut pas la donner, pourrait-il être pur? Même mort chez Hadès, il ne saurait fuir la condamnation des lâches s'il a fait cela. Là-bas aussi, dit-on, il y a pour juger les fautes en des procès ultimes chez les défunts un autre Zeus. Soyez sur vos gardes et répondez comme j'ai dit, afin que notre cause gagne heureusement.
Soit. La cause des jeunes filles est juste, elle est universelle, même dans les enfers. C'est tout simplement la cause de la liberté, du droit de disposer de soi-même. Mais cette cause universelle sera-t-elle entendue, acceptée par des gens différents, par ces gens d'un autre pays qu'on ne connaît pas, la Grèce? Le groupe qui vient de la ville s'approche. Il s'agit d'un groupe armé, conduit par le roi d'Argos, le roi Pélasgos. Il interroge les étrangères et leurs guides. Elles n'ont pas l'air grecques, mais orientales, avec leurs vêtements de luxe.
D'où vient cette foule? Cette troupe qui n'a rien de grec? Languidement parée de robes et de bandeaux barbares à qui j'adresse la parole. Car il n'est pas d'Argos, ce costume féminin, ni d'aucun lieu de la Grèce. Mais comment avez-vous osé, sans qu'aucun ambassadeur ne vous annonce, n'ayant personne ici pour vous représenter, loin de vos chefs, aborder au pays sans trembler? Cela est extraordinaire.
Les jeunes filles répondent tout de suite au roi grec qu'elles sont grecques, elles aussi, et en plus, originaires de sa ville, Argos.
Je parlerai court et net. Nous nous proclamons argiennes, rejetons de la vache aux beaux enfants, et tout ce que je grefferai sur ce propos sera véridique.
Le roi Pélasgos n'en revient pas. Il pourrait tout croire, sauf que ses filles sont de son pays à lui, Argos.
Étrangère, vos paroles sont incroyables à entendre. Cette lignée-ci, la vôtre, serait d'Argos ? Vous êtes plutôt à rapprocher des femmes libyennes, et en aucun cas de celles du pays. Le Nil aussi pourrait faire pousser cette sorte de plante ? Si l'on me disait que vous êtes indienne, nomade montée sur des chameaux et chevauchant ainsi la terre voisine des Éthiopiens ou bien des Amazones carnivores qui vivent sans hommes, si vous étiez archère, je croirais volontiers tout cela de vous. Mais si tu me l'expliques, je comprendrai mieux ce que tu affirmes, que ton lignage et ton sang sont d'Argos.
Les jeunes filles racontent toute l'histoire d'Io, qui a dû fuir Argos, son long voyage, son arrivée dans le delta du Nil, la naissance d'Epaphos, puis les générations qui suivirent jusqu'à elle. Pélasgos, qui avait par des rumeurs entendu parler de Io, est convaincu. Puis vient le plus dur. Les Danaïdes demandent à Pélasgos de les accueillir, de leur donner le statut de réfugiés. Il ne s'agit pas seulement d'accueil, d'hospitalité. Cette demande met la ville d'Argos dans une situation très délicate. Si Argos accueille les 50 suppliantes, Argos aura des obligations sacrées vis-à-vis d'elles. La ville devra les défendre contre les jeunes égyptiades qui sont à leur poursuite. Il y a un fort risque de guerre. D'un autre côté, ne pas assurer la sécurité des suppliants est un crime envers les dieux.
La colère du Zeus des suppliants est lourde.
Pélasgos fait une réponse qui stupéfie les jeunes filles et leur père Danaos. Il dit qu'il a beau être roi, il n'a pas l'autorité politique pour trancher cette question très délicate qui concerne l'ensemble du peuple. Il doit s'en remettre au peuple lui-même, à l'assemblée des citoyens d'Argos. Elle seule peut décider. Cela ne correspond pas du tout à la manière de voir les Danaïdes. En Égypte, c'est le roi qui décide souverainement. Pélasgos, en fait, a peur. Il se dit que la question de l'accueil ou non des étrangères peut diviser sa cité. Il a peur d'une guerre civile.
Pourvu que cette affaire qui touche des hôtes de la ville soit sans dommage, et que ne naisse pas contre la tente, à l'improviste, une discorde civile, la cité n'a pas besoin de cela.
Aucune option n'est bonne. Ne pas respecter la dette qu'il doit à des suppliantes est désastreux. Mais faire la guerre pour elle peut causer beaucoup de morts.
C'est sûr, l'affaire est bien par des endroits rudes à affronter. Une masse de malheur s'avance, telle une rivière, et je suis engagé ici, dans un abîme de désastre, une mer difficile à passer. Et nulle part un port qui sauve du malheur. Car si je ne fais pas que cette dette vous soit payée, à vous, suppliante, c'est la souillure que tu as dite. Aucun arc ne saurait tirer plus loin. Mais si, campé devant les murs, je tente le sort de la bataille contre les fils d'Égyptos, ta famille, ce serait là évidemment une dépense douloureuse si des hommes, à cause de femmes, ensanglantaient la terre.
Il n'y a qu'une seule solution. Aller demander son avis aux citoyens eux-mêmes. Pélasgos demande à Danaos de le suivre et de plaider devant le peuple la cause de ses filles avec des arguments bien pesés, rationnels et convaincants. L'assemblée des Argiens se réunit. Danaos, couvert des bandelettes de la supplication, plaide la cause de ses filles. Le vote a lieu. À l'unanimité, les Argiens votent pour accueillir les jeunes filles et les protéger, quoi qu'il en coûte. Le vieux Danaos raconte.
Les gens d'Argos ont décidé sans partage, d'une manière bonne à rajeunir mon cœur de vieux. Car au milieu du peuple réuni, l'air s'est hérissé de main droite sanctionnant cette décision, que nous résidions libres dans ce pays sans être enlevés comme otages, inviolables par quiconque, que personne, habitant ou venu d'ailleurs, ne nous emmène prisonniers. Mais si l'on nous fait violence, que celui des possesseurs de cette terre qui ne viendrait pas à notre aide soit frappé d'indignité et banni par décret du peuple.
Mais le danger approche. Un bateau égyptien accoste. Il est suivi d'autres, toute une flotte armée. Les Danaïdes paniquent.
Le coryphée. Père, j'ai peur, car les vaisseaux à l'aile vive sont là, sans qu'aucune longueur de temps nous en sépare. Le cœur des Danaïdes. Une terreur de grand effroi me tient. Ai-je vraiment tiré profit de ma fuite au long chemin? De crainte, père, ma vie s'en va.
Danaos, mes enfants, puisque le vote des Argiens est exécutoire. Courage. Ils se battront pour toi, j'en suis certain.
Le coryphée. La race furieuse d'Égyptos est abominable. Jamais rassasié de bataille, et je parle à un connaisseur. Le cœur des Danaïdes. Munis de bateaux au bordage de rues, aux yeux sombres, ils ont navigué jusqu'ici à la vitesse de la rage, avec leur énorme armée sombre.
Danaos. Et ils trouveront une foule énorme d'hommes aux bras bien coriaces dans la chaleur de midi.
Le coryphée. Ne m'abandonne pas seule, père, je t'en supplie. Une femme laissée à elle-même n'est rien. Elle n'a pas en elle l'esprit de la guerre. Le cœur des Danaïdes. Ils ont l'esprit méchant et des pensées de ruse, avec au cœur l'impureté, pareil à des corbeaux qui se soucient des autels comme de rien.
Danaos. Cela pourrait nous être profitable, mes enfants, s'ils se faisaient haïr à la fois de toi et des dieux.
France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre. Pierre Judet de Lacombe.
Pierre Judet de Lacombe nous parle des Danaïdes. Ces filles qui ne transigent pas sur leur liberté.
Un émissaire égyptien débarque et se rend à Argos. Il rappelle les exigences des jeunes égyptiades. Les filles de Danaos leur appartiennent. Elles doivent obéir et repartir avec eux. Pélasgos, le roi d'Argos, s'interpose. Il insulte l'Égyptien. L'échange est très violent. Et il y a aussi du machisme côté grec.
Toi, que fais-tu? Dans quelle intention attends-tu à cette terre des Grecs? Est-ce que tu t'imagines être arrivé dans une cité de femmes? Tu vas trop loin en insultant des Grecs, toi, le barbare. Tu te trompes beaucoup et ta pensée n'aboutit à rien de droit.
En quoi ce que je fais est-il fautif? Contraire à la justice?
D'abord, tu ne sais pas te comporter en étranger.
Et comment non? Je retrouve ce que j'ai perdu et je l'emmène.
Quel protecteur des étrangers en as-tu averti chez nous?
Hermès, le protecteur le plus puissant, le récupérateur.
Tu avertis les dieux, mais tu ne les respectes pas.
Je garde mon respect pour les divinités des bords du Nil.
Celles-ci n'existent pas, si je t'en crois.
Je suis prêt à emmener ces filles, sauf si on me les arrache.
Tu vas pleurer si tu les touches. Et vite!
L'Égyptien ne se laisse pas impressionner par Pélasgos. La guerre éclate. Nous n'avons pas le récit de cette guerre. La pièce d'Échille, qui faisait suite à ses suppliantes, a disparu. On sait seulement que les Égyptiades ont gagné, que le roi Pélasgos a été tué. Le vieux Danaos a pris sa place comme chef de la ville. En tout cas, les fils d'Égyptos pensent avoir obtenu ce qu'ils voulaient. Les Danaïdes ne peuvent plus résister. Elles sont obligées d'épouser leurs cousins. Nous avons quand même quelques renseignements sur ce qui se passe. Les 50 fils d'Égyptos célèbrent leurs noces dans la ville qu'ils viennent de conquérir. Ils font la fête. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'un énorme complot a été tramé contre eux. La nuit de noces va leur être fatale, pas pour tous, mais pour 49 d'entre eux. Ils seront massacrés dans leur lit par les femmes qu'ils pensaient épouser. Un seul survivra. Heureusement pour nous, si on peut dire, Échille a fait allusion à cette nuit de noces sanglante dans une autre pièce de théâtre, celle où le dieu Prométhée raconte à la pauvre Io ce qui va lui arriver. Prométhée lui parle de la descendance de son fils Épaphos, ce fils qu'elle aura de Zeus, en Égypte. Cet Épaphos, on se souvient, sera l'ancêtre des Danaïdes, à la cinquième génération.
La cinquième génération comptera 50 enfants qui, contre leur gré, retourneront vers Argos. Moisson de filles, fuyant un mariage entre parents avec leurs propres cousins. Eux, le cœur éperdu, éperviers serrant de près des colombes, surgiront, traquant un mariage qui n'était pas à prendre. Un dieu les détestera, et la terre des Argiens les accueillera. Ils seront massacrés par des femmes, quand l'audace rôdera dans la nuit. Chacune supprimera la vie de son homme, d'une épée bien coupante qu'elle trempera dans la gorge. À mes ennemis, je souhaite un amour aussi beau. Une seule, possédée par la soif d'enfant, renoncera à tuer son compagnon de lit. Sa résolution s'émoussera. Entre les deux, elle fera son choix, être appelée lâche plutôt que tueuse. Et d'elle sortira une famille qui régnera sur Argos.
Une seule Danaïde n'a pas suivi la consigne de mettre à mort le conjoint obligé. Elle s'appelait Hypermestra. Le nom veut dire « l'hyper-courtisé ». Est-ce que ce nom correspond à la réalité? On nous dit aussi que l'époux qui lui était destiné, un certain Lynceus, l'a respecté, qu'il n'a pas voulu s'en prendre à sa virginité. On dit aussi que cette Danaïde avait un désir d'enfant, ou tout simplement un désir amoureux. Le père, Danaos, est furieux de la désobéissance de sa fille. Devenu roi d'Argos après la mort de Pélasgos, il n'est pas impossible qu'il ait voulu la punir. Mais on nous dit que Lynceus, l'époux épargné et amoureux, a défendu celle qu'il a laissée vivre. Parfois, pas toujours, on dit qu'il a tué Danaos. Mais il faut bien qu'un jour la violence cesse, que l'amour règne. La déesse Aphrodite, déesse de l'amour et du désir, prend directement les choses en main. Elle vient en personne à Argos pour apaiser tout le monde. Aphrodite commence par appeler son pouvoir universel. C'est elle qui fait la vie de la nature. Elle est incontournable pour tout le monde.
Le ciel sacré désire entrer dans la terre. Le désir prend la terre pour qu'un mariage ait lieu. La pluie tombe des beaux débordements du ciel et engrosse la terre. Pour les mortels, la terre met au monde l'herbe des moutons, le blé de la vie dans les champs de Déméter, la belle saison des arbres. Par ce mariage liquide, la terre s'accomplit. Moi, Aphrodite, j'en suis l'une des causes.
Et visiblement, ça marche. Lynceus et Hypermestra peuvent triompher. ils deviennent rois et reines d'Argos. Ils ont de nombreux enfants. Les 49 sœurs vont trouver des maris à leur convenance. L'amour universel que défend Aphrodite retrouve ses droits. Mais ça n'a pas été facile. Il a fallu d'immenses détours pour en arriver là. Dans cette histoire, l'amour, Aphrodite, ont commencé par prendre de bien mauvais visages. Il a fallu d'abord, au tout début, la torture de Io, pourchassée par le désir impérieux de Zeus et par la colère de Héra. Il a fallu la fuite épuisante par des pays invraisemblables, puis l'exil très loin, en Égypte. Ensuite, pour les 50 Danaïdes, il a fallu prendre le chemin inverse, fuir l'Égypte et la violence impérieuse du désir des cousins. Il a fallu l'accueil miraculeux en Grèce, pays en fait inconnu, puis la guerre, la défaite, le triomphe des fils d'Égyptos et la mort violente dans une nuit de noces atypique de 49 d'entre eux. Au départ, les Danaïdes refusaient frénétiquement le mariage. Elles refusaient Aphrodite. Elles refusaient avec dégoût des hommes violents qui prétendaient, parce qu'ils étaient leurs cousins, pouvoir disposer d'elles. Elles refusaient un mariage sans désir de leur part et n'avaient que cette expérience traumatisante de l'amour. Elles ne connaissaient pas Aphrodite. Et enfin, est apparue la surprise d'un être masculin respectueux, un seul sur 50, pour que l'ordre des choses se rétablisse, pour que la puissance universelle d'Aphrodite soit reconnue et qu'un mariage ait lieu. Ce n'était pas donné d'avance. Et autre surprise, on découvre que pour faire un héros grec exemplaire, un idéal, un modèle, le très grand et très célébré Héraclès, il aura fallu toutes ces perversions, ces transgressions, la rencontre affolante de monstres, de populations inouïes à la périphérie du monde, un long exil, un débordement de désirs intempestifs, une guerre, un couple improbable, inattendu, Hypermestra et Lynceus, la Danaïde et l'Égyptiade, va finalement régner sur la ville d'Argos, grande ville grecque. Hypermestra et Lynceus sont bien des Grecs, précisément parce que ce sont des revenants, issus d'Égypte, couple à la peau sombre. Il porte avec lui les traces d'une très longue errance. C'est lui qui va donner à cette ville tout son prestige, en faisant naître, après plusieurs générations, le grand héros civilisateur qu'est Héraclès. L'origine, c'est revenir depuis très loin.
Julia Kristeva, psychanalyste.
La première image que notre civilisation possède sur les étrangers, c'est une image d'étrangère, de femme. Et il s'agit en effet des Danaïdes. Elles arrivent en Grèce et pour pouvoir s'intégrer, en tout cas être acceptées par la société grecque, il faut qu'elles se constituent comme suppliantes, c'est-à-dire apporter des rameaux d'olivier devant le temple de Zeus et se faire très modestes, très humbles. D'une part, elles sont officiantes donc du culte d'Héra et par conséquent, quand elles fondent le contrat social, le mariage, le foyer. Mais d'autre part, elles sont des officiantes du culte de Déméter. Et à ce moment-là, on les voit verser du sang. Ce sont des Amazones, ce sont des violentes. Et c'est là que leur nature étrange, étrangère, apparaît. Comme si les Grecs voulaient célébrer, à travers cette image des étrangères, quelque chose de spécifique au contrat social, à savoir qu'il faut s'arracher à une origine, à un clan, pour fonder une autre société. Comme si dans chaque contrat, il y avait un élément de violence.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, Pierre Judet de Lacombe.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia. Les archives sonores ont été choisies par Claire Tesser. Les textes ont été lus par Yaël El-Haddad et Laurent Stocker, avec la voix d'Andrea Lechêne. La programmation musicale est de Thierry Dupin. Bonne journée sur France Inter.